Culture d'Islam par Abdennour Bidar. J'étais invité le 8 janvier dernier au Théâtre du Nord à Lille pour une conférence sur le thème habituel par les temps qui courent de religion et laïcité. Et puis avant que la conférence commence, ou plutôt la table ronde, c'était un débat, j'ai entendu sur la scène du Théâtre du Nord une jeune femme réciter un texte. Et ce texte m'a immédiatement frappé par la qualité et la beauté de ses sonorités et de ses significations. Alors, je me suis demandé qui c'était et il s'est avéré que c'était Samira El Ayachi que je reçois aujourd'hui, que je suis très content de recevoir aujourd'hui, qui est une jeune auteure, donc, avec laquelle on va parler dans un instant et puis avec laquelle on va écouter un certain nombre de textes qu'elle récite.
Moi, j'avais mis des œufs et de l'huile sur mes cheveux. C'était un masque.
Attends, mais regarde là.
Attends, tu vois, le lendemain, je l'ai mis, en fait, pour sortir avec lui. Il m'a dit, viens, franchement, c'est bien et tout. Je suis partie avec lui. On est parti pour se balader et tout. Et j'avais pas le temps de laver mes cheveux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est mettre un sachet sur mes cheveux, je me rappelle, et j'ai mis le foulard. Le lendemain, pour aller à Nkra et pour aller travailler, je me suis trouvée bien. Je me suis sentie bien, mieux que sans le foulard. J'ai... Tu vois, je me suis sentie bien.
Ah bah
ça y est, après, ça y est. Je ne pouvais plus sortir sans foulard. C'était... Tu vois, c'était ça où... Même s'ils m'ont dit au travail, « Lukan galulig khorje », voilà, « Lukan khorje ».
Et toi, comment, pourquoi tu as mis le foulard, Fethiha?
Moi, c'est parce que la religion me l'impose. Sinon, je ne mettrais pas de foulard. C'est pas une question d'habitude. Je me sens bien. Je vais pas dire que je me sens mieux avec foulard, mais je ne me sens pas bien sans foulard. Tu vois, ça me dérange parce que je le porte et que du coup, je suis un petit peu en contradiction avec le fait de le porter puis de pas le porter, mais je me sens pas mal à l'aise sans foulard. Je me sens pas mal à l'aise.
Dehors, tu te sentirais mal à l'aise.
Alors, je
vais te dire parce que
tu as pris l'habitude de le
porter. C'est la religion qu'elle dit. Mais c'est tout. Écoute ce qu'elle dit. Moi, pourquoi je l'ai porté? Moi, j'ai une crise d'identité. J'ai eu une crise d'identité. Étant ne ressemblant pas à une arabe et ressemblant à une française, cette crise m'a fait très mal. En tout cas, en sachant mon histoire, mes parents sont divorcés, j'ai jamais connu mon père, il y a eu toujours ce petit doute quelque part. Et je l'ai porté, première chose, pour une crise d'identité. Mais par la suite, je l'ai porté par conviction.
Samira El Ayachi, bonjour.
Bonjour Abdennour Bidar.
Alors là, on vient d'écouter quelque chose qui est typique de votre travail, en tout cas d'une partie de votre travail. Vous collectez la parole des gens, comme ça, et puis vous l'assemblez, hein, pour la faire entendre et pour la faire signifier. On va en parler dans un instant, hein, de ce petit dialogue, ou de ces petits fragments de dialogue qu'on a entendus. Avant, je voudrais vous présenter un peu à nos auditeurs. Hein. Vous êtes écrivain, vous avez déjà publié deux romans. La vie rêvée de Mademoiselle S, paru en 2007 aux éditions Sarbacane. Et puis, aux éditions de l'Aube, 40 jours après ma mort, paru en 2013. Alors, vous écrivez des romans, vous écrivez aussi un certain nombre de textes que vous récitez. C'est comme ça que je vous ai rencontré, je viens de le raconter à l'instant. Et j'ai vraiment voulu, avec les auditeurs de Culture d'Islam, partager ces moments de lecture. On va vous entendre. Et puis donc, vous collectez la parole des gens. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Qu'est-ce qui vous a paru intéressant, justement, dans le fait de collecter ce type de parole qui, on l'a entendu tout de suite, hein, ne porte pas sur n'importe quel sujet, mais les sujets qui sont au cœur aujourd'hui de bien des débats de notre société française. L'identité, le port du voile, etc.
Non, en fait, effectivement, je suis toujours très touchée d'entendre parler les gens que je croise, ça et là, dans le cadre de mon travail, et d'essayer de créer un dispositif pendant les performances que je donne, qui propose d'entendre une parole, souvent à laquelle on n'a pas vraiment accès. Et je pense que dans ce cas précis, entendre des femmes se raconter, se dire, construire une narration, faire récit, c'est aussi une façon qu'elles ont d'avoir un retour réflexif sur leur propre sur leur propre mode de croire. Et dès lors, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de motivations à porter le voile qu'il y a de femmes. Et il y a aussi, à l'intérieur d'une même femme, des changements, des glissements.
Des périodes de vie.
Des histoires, tout simplement, de vie. Et le travail que j'essaye de faire, c'est donner, de créer un écrin pour qu'on puisse entendre ce qu'elles ont à dire et de les percevoir comme des personnes qui sont aussi aptes à produire du discours et à faire sens.
Ce qui m'a frappé, par exemple, dans l'extrait qu'on a écouté, même si ça n'apparaît pas comme ça, être le plus spectaculaire de ce qu'on a entendu, c'est le déplacement de la question de l'identité vers la question de la conviction. C'est-à-dire que, donc, tandis que l'une et l'autre parlent de l'identité au départ, se sentir musulmane, ou se sentir arabe, ou se sentir française, etc., à un moment donné, la question du voile va vers la question de la conviction. C'est-à-dire, non pas comme l'identité, quelque chose qui est de l'ordre de l'affichage social, mais de quelque chose qui est de l'ordre d'un... je l'interprète comme ça, d'un besoin spirituel.
Oui, il y a... D'un côté, quelque chose de très étonnant qui est la volonté de peut-être se soustraire à l'espace social par le biais du voile. Enfin, c'est en tout cas comme ça que ça peut être perçu par certains membres de notre société. Et puis, petit à petit, un cheminement intérieur individuel qui est revendiqué comme tel, qui est une forme d'autonomie, j'ai envie de dire, où cette femme dit finalement qu'elle le porte dans une sorte de volonté d'être dans le cadre de sa propre pratique.
En tout cas, dans votre collecte de paroles, il n'y a ni jugement, ni normativité. Vous n'êtes pas en train de militer pour ou contre le port du voile. C'est pas du tout votre propos.
Non, absolument pas. C'est simplement donner à entendre ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles en pensent elles-mêmes. Et puis, il n'empêche qu'à l'intérieur des discours qu'elles prononcent, on peut entendre ça et là, derrière les discours, l'existence de schémas, de rapports de force. On peut les entendre. Mais c'est un chemin qui leur est propre.
Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre propre travail d'écriture? Parce que donc, je l'ai cité un peu rapidement au départ, hein, Samira El Ayachi, vous êtes auteur, vous êtes écrivain, écrivaine. On dit écrivaine ou pas, hein? Qu'est-ce que ça vous apporte en tout cas de collecter des paroles comme ça pour nourrir votre propre écriture, ben, si c'est le cas?
Je pense que je suis très touchée par l'idée d'une littérature vivante au contact du lecteur. Et c'est vrai que le spectacle vivant, la performance, est l'endroit où la rencontre peut avoir lieu. Donc c'est une forme de travail. Je pense que Zola faisait la même chose pour écrire Germinal ou d'autres titres. Le contact direct avec...
C'est-à-dire écouter la parole à l'état vif, hein, ou à l'état brut. Et puis aussi quelque chose qui est une dimension importante de votre travail... j'imagine régulière, mais je ne sais pas en réalité, qui est la lecture de textes. Vous ne vous imaginez pas simplement produire des textes dans votre coin, dans la solitude ordinaire de l'écrivain, mais vous portez vos textes sur scène.
C'est une autre forme d'écriture que le roman. C'est vrai que le roman me demande l'isolement, le retrait, me demande du temps. Et l'écriture de textes qui sont dits à voix haute est un autre type d'exercice qui a une influence sur la façon dont j'écris. Mais qui a une particularité, c'est effectivement le lien direct avec l'auditeur, le spectateur. Et la possibilité d'entrer pleinement dans un univers que je déroule, qui est celui de la langue.
Oui, alors c'est ce qu'on va écouter aujourd'hui. Ce sont des textes que vous récitez. Alors, je précise qu'ils sont accompagnés au oud. Hein. Je vais dire deux ou trois mots à ce sujet de l'homme qui vous accompagne, qui est un artiste étonnant. Hein. C'est un artiste étonnant qui est en même temps maître de conférences à l'Université de Lille. Vous nous le présentez?
Oui, Kamel El-Mimouni est un joueur de oud. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas dans la région d'où je viens. Oui. Et
la région, c'est-à-dire le Nord.
Le Nord, ouais, exactement. Et il compose aussi. C'est vraiment un instrument assez, assez étonnant et qui nous plonge directement dans une forme de... dans la vibration de la corde du oud.
Voilà, donc Kamal Mimouni, qui est luthiste, hein, c'est le, puisque le oud est un luth. Alors, on va écouter un premier extrait de vos textes. Tous les extraits qu'on va écouter aujourd'hui sont tirés d'un grand texte qui a pour titre « Cendrillon rêve de porter le niqab ». Et je signale, avant même qu'on écoute l'extrait, que vous cherchez toujours un éditeur pour ce texte, donc avis aux amateurs. Et je peux vous dire que le texte est excellent, comme on va pouvoir en juger. Cendrillon rêve de porter le niqab.
Ça commence par... Tout commence par une voix. À l'origine, une voix dans la nuit. Une interpellation dans le vide. Une apostrophe dans la déchirure du monde. En l'homme, ça répond comme une réminiscence. Puis rien. Puis l'homme, comme un fou, accroché au souvenir de l'interpellation, coûte que coûte, veut contaminer l'autour. Propager sa révélation. D'où vient que l'homme parle fort? D'où vient que d'autres frémissent à l'appel? À quoi les bureaux de Dieu répondent 24 heures sur 24? Homme, peur de la nuit, sentent seuls les hommes. Homme, honte d'être fini. Sentent petits les hommes. Hommes trouvent la torche. Sentent mieux les hommes. Hommes nomment la torche Dieu. Rassurez les hommes. Pourtant, dans la nuit, on n'entend plus rien. Dieu a cessé de parler. Maintenant, ce sont des hommes qui prennent le relais. Homme remplaçait Dieu par le lien à Dieu. Tuant Dieu dans son œuf, donnant naissance à leur propre recréation, la religion.
Ali, salam Allah, ya Habib Allah. Ali, salam Allah. Ya Rasul Allah, Ali Salam Allah, Ya Habib Allah, Ali Salam Allah, Ya Habib Allah.
Samira El Ayachi. Donc on vient d'entendre la voix, hein, non seulement le luth, mais la voix de Kamal Mimouni, hein, avec une éloge au prophète, hein, Mohamed. Vous nous avez raconté une sacrée histoire. En quelques mots, en quelques phrases, ce sont toutes les époques religieuses qui ont défilé, toutes les époques religieuses de l'humanité qui ont défilé à partir de quelque chose, hein. Tout commence par une voix, dites-vous, et puis, qu'est-ce que vous nous avez voulu nous raconter là?
Effectivement, je pense qu'on est là au cœur de la problématique ontologique, si j'ai envie de dire, si je peux dire, de l'homme.
On peut dire ontologique dans culture d'islam, n'hésitez pas, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire les uns et les autres, mais on peut l'employer.
En tout cas, cet écart immense que vit l'homme, à savoir être dans ce corps fini, d'être, oui, lui-même un média fini avec une volonté, avec un besoin, on peut dire spirituel, esthétique, appelons-le comme on le veut, mais qui le pousse à faire l'expérience, une expérience qui le dépasse.
Avec une expérience originelle comme ça, que vous décrivez de façon très poétique, le vide, et puis dans le vide, dans la nuit, ce que vous appelez une interpellation, tout d'un coup une voix qui s'élève, Et puis des grandes images hein, qui arrivent, Dieu, la torche, la lumière, quelque chose qui répond et que les hommes vont ensuite cristalliser dans la religion, mais à partir de quelque chose qui est au départ beaucoup plus subtil.
Et c'est toute la problématique, c'est qu'effectivement le médium que possède l'homme, c'est le langage. Le langage lui-même est fini. Donc comment rendre compte de cette expérience, d'une expérience que vit l'homme, c'est assez compliqué. J'ai l'impression que ça, que c'est à la fois la clé et à la fois toute la difficulté. Je dis que ça commence par une voix, mais ça commence par du langage, évidemment, et le langage vient clore. Vient clore, vient fixer, vient peut-être figer une expérience qui est ouverte. On parle du Coran, le Coran est une récitation à la base, c'est pas un texte fini, c'est un discours.
Et quand on entend cette voix, eh bien, tout de suite, la première fixation du langage, c'est de dire « c'est Dieu qui a parlé ». Et puis ensuite, dites-vous, deuxième fixation, puisque, je vous cite, Dieu a cessé de parler, et par contre, d'autres prennent la parole à sa place, les hommes prennent le relais. Donc il y a une série de fixations comme ça du langage.
Oui, c'est surtout qu'on a accès qu'à des traces, qu'on a accès c'est qu'à ça. Des signes finalement, et que ces signes renvoient à autre chose, cette autre chose est ouvert, mais le langage l'enferme. Et pour moi qui aime écrire, c'est tout le paradoxe dans lequel je suis. Et je dois accepter en tant qu'auteur que toute tentative de dire une expérience est inachevée et vouée à l'échec n'est qu'une tentative. Mais en tout cas, elle fait signe vers quelque chose. Et voilà. Et toute la difficulté, toute la problématique se trouve, il me semble, précisément à cet endroit. D'autant que la voix est quelque chose à laquelle je suis très sensible et qui est considérée comme étant quelque chose d'intime, qui n'est pas si intime. C'est d'abord quelque chose d'extrêmement singulier. À l'intérieur de cette voix, par contre, d'autres voix parlent au nom d'eux. Et c'est toute la difficulté qu'on...
Voilà. Et la difficulté également, c'est que le langage s'oublie comme trace. Hein. C'est-à-dire qu'il veut se faire sens, sens achevé, sens clos, sens tout entier déterminé et dit. Et il ne veut pas se souvenir de ce qu'il est à l'origine, c'est-à-dire simplement le parfum ou la réminiscence de quelque chose d'autre. Hein.
Voilà. D'où le terme réminiscence ou aya, c'est-à-dire un signe, quelque chose qui renvoie à d'autres choses et qui nous est inaccessible. Et l'humilité et la beauté aussi, la création se trouve exactement à cet endroit.
Oui, donc le langage, et puis la religion, et puis Dieu, et puis ce que les hommes qui font de la religion font du langage et font dire à Dieu. Hein, on va être au cœur de ce sujet, ça va être le fil rouge hein, des extraits de lecture qu'on va écouter. Je vous propose d'en écouter un deuxième.
Dans les bureaux 24-24 de Dieu. Dans les bureaux 24-24 de Dieu, on entend le désarroi identitaire, le malaise social, l'ennui, beaucoup d'ennui. La douleur de l'humiliation, la réhabilitation d'une mémoire occultée, la nostalgie de l'enfance, la quête du paradis perdu, le besoin de reconnaissance, besoin d'être rassuré, marcher les yeux fermés et qu'un autre s'occupe de tout. Dans les bureaux 24-24 de Dieu, on entend le désir d'être le meilleur joueur de football, de vivre l'amour fou, un cri lancé au monde d'en face et en face on s'en fout. Dans les bureaux de Dieu, on entend l'échec du langage, l'échec de la pensée. On entend le déplacement des guerres du dehors dans nos dedans. On entend une frustration des corps, la volonté de serrer beaucoup de femmes, de les maintenir fermement à sa portée. Et les femmes sont contentes. Et puis, dans les bureaux de Dieu, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Une vieille breloque qu'on croyait morte. Quelque chose d'un peu bizarre et visqueux qu'on regarde avec effroi. Et qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Qu'on comprend pas bien. Et qu'on parle pas du tout la même langue. Et qui nous lance en pleine face l'ampleur de la séparation. Ils appellent ça la foi. On pensait en avoir fini avec tout ça. Ça existe encore, ce truc-là ? Voilà à quoi les bureaux de Dieu répondent 24 heures sur 24. Un micmac sans nom. Ça déborde de la baignoire jusque dans l'arrière-cuisine. Il y en a partout. On finit tous mouillés, tout collants et collés, éclaboussés par la croyance de l'autre. Normal. C'est bien la preuve qu'on vit ensemble et qu'on a tout à reprendre.
Il s'en passe des choses dans les bureaux de Dieu. Hein ? Quelle magnifique expression. Alors, au 24-24 de Dieu, hein, allô Dieu, 24 heures sur 24, à votre service, puisque c'est bien connu, Dieu ne dort pas, hein, Dieu n'a pas besoin de dormir, s'il existe. J'apprécie, j'admire à la fois la poésie du texte et puis la mélodie de la voix. Hein, c'est là qu'on reprend conscience à quel point un texte peut être en soi beau quand on le lit, mais qu'il est encore plus beau lorsqu'on l'écoute, hein, lorsqu'on l'entend prononcé par une voix. Je vous en remercie beaucoup. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là, avec ce bureau toujours ouvert de Dieu et ce 24-24 vous abordez une quantité de thèmes absolument impressionnante. Hein, j'ai fait la liste sur ma feuille, mais je préfère vous donner la parole d'abord, bien sûr. De quoi s'agit-il ici ? Qu'est-ce qui est en jeu ?
L'enjeu, c'était d'essayer de comprendre s'il y a des choses auxquelles l'entrée en religion tente de répondre, que la société laisse en plan. Et c'est un petit peu le constat de la première partie de ce texte, qui concentre effectivement dans un... J'ai figuré, évidemment, c'est une métaphore, toutes les névroses que de notre société contemporaine. Mmh. Et effectivement, il y a énormément de choses, mais surtout ce qui me marque peut-être, c'est qu'il y a tout un tas de questions... que la société aurait pu répondre, par exemple, et celle-ci n'y répondant pas. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles, notamment chez les jeunes garçons, mais dans d'autres circonstances également, la solution est non pas d'entrer en religion, mais une sorte de repli, une sorte de questionnement. Mmh. La
religion vient remplir un vide qui s'exprime dans la liste, effectivement, des névroses que vous citez. Vous dites le désarroi identitaire, l'ennui. On ne parle pas souvent de l'ennui. Hein ? Il y a un ennui. On peut entrer en religion parce qu'on s'ennuie profondément dans son existence. Je voudrais qu'on en parle. Alors pas seulement l'ennui, la nostalgie de l'enfance, le besoin d'être rassuré, le désir d'être le meilleur joueur de foot, hein, dites-vous, le besoin d'amour fou aussi, hein, la frustration des corps et le monde d'en face qui s'en fout. Vous vous ennuyez, vous vous sentez mal, et le monde d'en face, alors il y a qui dans le monde d'en face ? Mais il s'en fout, en tout cas. L'échec du langage et de la pensée, l'envie de serrer beaucoup de femmes, et puis les femmes sont contentes, dites-vous. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par serrer beaucoup de femmes. C'est serrer d'un peu trop près
C'est là, serrer dans ses bras. On parle de frustration sexuelle à cet endroit-là, oui. Très clairement. C'est vrai que c'est un texte résultant de beaucoup de conversations que j'ai eues. L'histoire du foot, c'est vrai.
Oui.
C'est vraiment. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a raconté qu'il s'était blessé au foot et il ne pouvait plus y aller. Il a commencé à s'ennuyer terriblement et le seul endroit où il avait l'impression de pouvoir avoir un peu de répit, dehors de la souffrance physique et morale qu'il pouvait ressentir, c'est cet espace où on l'accueillait tel qu'il était. Donc, simplement, ce que je veux démontrer, ce que je voulais dire, j'ai rien à démontrer, mais plutôt ce qui m'anime à cet endroit-là, c'est de bien montrer qu'il y a une sorte de frottement entre l'histoire d'un individu et une société, et une histoire qui n'est pas résolue, qui n'est pas apaisée, des choses qui a priori pourraient sembler être extérieur, comme l'ennui, le fait de ne pas avoir de travail, le fait d'être frustré, de ne pas pouvoir s'épanouir dans la société. Or, cette énergie existe, elle est bien présente, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans quels espaces de la société est-ce que certains vont peut-être pouvoir réussir à s'accomplir pleinement ?
Oui, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas seulement le refuge religieux, ce n'est pas seulement un exutoire de névrose, donc qui ne concernerait que le parcours individuel d'un tel. C'est quelque chose qui nous parle aussi de notre société.
Ah, tout à fait. La question que je pose, c'est bien qu'est-ce que ce besoin de Dieu dit de nous ?
C'est ça, de nous tous.
De nous tous.
Pas seulement de ceux qui se tournent ou se retournent vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension révélatrice ou une dimension miroir à prendre en compte. Qu'est-ce que ces aventures ou ces mésaventures individuelles de névrose qui vont s'assouvir dans la religion nous disent d'un état de la société qui peut-être ne donne pas d'espace d'expression suffisant à des énergies, vous en avez parlé, à des aspirations aussi, à des besoins.
Oui, il y a des névroses, mais il y a aussi des rêves, il y a aussi des demandes qui sont légitimes, il y a aussi des mémoires qui sont douloureuses, des tas de choses qui n'ont pas été dans l'espace de notre société vue, validée, et peut-être tout simplement à certains endroits, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'un amour fou, mais peut-être pas celui qu'on imagine, peut-être simplement l'histoire d'un amour manqué entre des histoires d'un individu avec une société, et quelles sont les conséquences.
Pour dire les choses peut-être un peu plus clairement ou explicitement, l'histoire d'amour manqué entre des jeunes d'origine immigrée et la France, et la société française, et la possibilité de se sentir appartenir à cette histoire ici, à cette société.
Tout à fait, je pense que la société française a de toute façon, d'une manière générale, un problème avec sa jeunesse, peut-être encore plus masculine. Il y a un problème avec la jeunesse, ou en tout cas avec la vision qu'elle a d'une population, d'une certaine forme de population, en dehors des 25-40 ans qui constituent la force vive du pays. On ne sait pas trop quoi faire des anciens, mais bon, ceux-là sont invisibles ou silencieux, et les jeunes et les enfants ne sont pas très visibles dans l'espace public. Et je constate qu'en effet, les seuls endroits où il y a un soin et un souci du collectif, c'est dans ce qu'on appelle la communauté. Donc, c'est à cet endroit-là que je remarque que des personnes vont retrouver.
À défaut de société, on a toujours la communauté. C'est-à-dire justement, à défaut d'une capacité à faire société au-delà des frontières de la communauté, il reste cette communauté refuge qui est offerte par l'appartenance religieuse, entre autres, dont vous parlez là, et qui nous confronte à quelque chose, dites-vous, c'est aussi ça qui m'a intéressé dans cet extrait, qu'on pensait avoir laissé derrière nous, qui est la foi, le phénomène de la foi. Voilà l'inattendu. Comme vous le dites dans votre texte, vous pensiez en avoir fini avec ce truc-là, eh bien, vous vous rendez compte que tout est à reprendre. Et donc, là encore, c'est tous ces parcours individuels qui se cherchent à nouveau, qui cherchent à nouveau un sens d'eux-mêmes du côté de la religion et du côté de la foi, eh bien, nous renvoient à une question beaucoup plus collective, qui est la question du rapport, alors pas seulement au religieux, mais du rapport au spirituel, à la dimension spirituelle de l'existence, si je vous ai bien compris.
Alors, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour des névroses, une fois qu'on a fait, qu'on a fait le tour des rêves, qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau de Dieu ? Effectivement, il y a peut-être un élément que notre société a peut-être du mal à entendre ou à connaître, parce que peut-être la loi de la séparation de l'Église et de l'État s'est faite contre l'Église, et que du coup depuis il y a une sorte de méfiance de toute forme, enfin d'une spiritualité ou d'une religion, pour dire les choses plus clairement, visible dans la place publique. Mais est-ce qu'il est aussi possible pour nous, ça nous demande de voir s'il est possible pour nous, pour la société, je l'entends, de percevoir que la foi existe. Qu'il y a des gens qui entrent en religion ou qui ont une certaine forme de façon de vivre et de se comporter en société qui est tout simplement liée à la foi. Est-ce qu'on est capable de l'entendre et de le percevoir ? C'est une question
et
que
comment
je pose.
Est-ce que, tout à fait. Et comment est-ce que collectivement on peut entendre quelque chose comme la conciliation possible entre la vie spirituelle et la laïcité ? C'est pas évident du tout. Voilà comment insensiblement, petit à petit, au fil de votre texte, vous passez du récit, de l'histoire racontée de névrose individuelle à, en réalité, une question de fond, débat de fond dans notre... une impossibilité de fond aujourd'hui dans notre société.
Disons qu'il y a une tension. Il y a une véritable tension, et je pense que la société française, dans son ensemble, et à l'intérieur de la société française, la communauté musulmane, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là, mais en tout cas les musulmans, appelons voilà, les individus croyants, quels qu'ils soient, vivent une certaine tension. Et il y a deux mouvements, d'un côté critiquer, continuer à critiquer les religions et rendre visibles les dominations quand elles sont là. Mmh. Voilà, donner un petit peu ce...
Domination masculine, domination des dogmes, etc.
Oui, ouais. Et puis donner aussi aux croyants un cadre pour qu'ils puissent vivre pleinement, pleinement en tout cas dans les conditions que la société permet, de vivre son expérience spirituelle. Mais ça présuppose du coup ce qui est en train de se passer dans la douleur est une bonne nouvelle, malheureusement.
Une bonne nouvelle, malheureusement.
Oui, ouais. Je dis qu'on a tout à reprendre.
Oui,
la crise nous y aide, la crise de 2008, je parle aussi de la crise économique. Toutes les valeurs sont à reprendre, tout est à revoir. Mmh. Et des choses sont déjà en train de se mettre en place qui sont extrêmement intéressantes pour la société, des formes collaboratives.
Alors, on continue de vous écouter hein.
Cendrillon dit « C'est entre Dieu et moi. » Mais entre Dieu et elle, se sont immiscés les prêtres, le père, la police, les soldats, les commerçants, les avocats, les rabbins, les imams, les journalistes, les candidats à la présidence de la République et tous les ministres, les illettrés, beaucoup, les savants, les petits chefs, et puis les rats. Sont sortis des égouts et des caves, ont déchiré les poubelles, sont dans la rue, sont rentrés dans nos têtes, sortis par la bouche, se faufilent dans nos maisons, dans nos télévisions, nous parlent par écran interposé, sont partout les rats. Les rats disent, les rats radicaux. Les rats disent qu'il faut éradiquer les radicaux, alors les rats se sont radicalisés. Les déradicalisateurs veulent éradiquer les rats, alors les rats se sont radicalisés et veulent nous éradiquer. Les rats disent que les déradicalisateurs veulent les déradicaliser, alors ils veulent les éradiquer. La guerre contre les rats est déclarée. Les radicalisateurs de rats, les radicaux et les éradicateurs de rats, les mêmes. Au bout, c'est la mort avec un morceau de fromage et du gros sang dedans sur la tapette. J'ai aussi peur des radicaux que de ceux qui veulent dératiser le monde.
Rats, radicaux, éradiqués, radicalisés, déradicalisateurs, dératiseurs, dératisateurs, et on en passe. Comme vous le dites, sont partout les rats. Hein, donc, mais alors, qui sont les rats? Et de qui faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur des rats? Ou des dératisateurs? Ou des radicalisés? Ou des déradicalisateurs?
Mais c'est exactement à cet endroit-là. On ne comprend plus grand-chose, finalement. On ne sait plus à quel endroit on se trouve. Et évidemment,
mais que fait la police?
J'ai en tête le livre de... J'ai en tête La Peste de Camus, ce texte où la maladie est une métaphore un peu de la guerre.
C'est ça.
Et c'est le climat de peur dans lequel nous sommes tous plongés. Et on ne sait plus d'où vient la peur, on ne sait plus vers
de
qui se tourner.
De quoi on doit avoir peur?
De quoi on doit avoir peur? Il y a juste une chose qui est sûre, c'est que la peur est un moyen de prendre le pouvoir sur l'autre. Et qu'en définitive... Les deux côtés, à la fois l'intégriste religieux et celui qui veut absolument garder le pouvoir et qui maintient un discours selon lequel la religion va dénaturer, c'est l'axe du mal. Enfin, je pense évidemment à le choc qui a été 2001 et
l'utilisation, alors notamment par
l'Irak,
oui, notamment par toutes les idéologies en néoconservatrices et puis les extrêmes droites, hein, occidentales, que
tout
ce soit sur le continent américain ou en Europe, effectivement. Hein. Donc deux discours comme ça
qui mettent en concurrence
deux intégrismes finalement.
Tout à fait, et qui mettent en concurrence le croyant et le non-croyant en les mettant en opposition, en les mettant en concurrence permanente et qui sont tous les deux pris entre les griffes de deux monstres. On pourrait dire ça comme
et à chaque fois que dans notre imaginaire il est question de rats, il est question aussi de prolifération, hein, c'est-à-dire que il y a le spectre d'une folie qui prolifère et avec laquelle vous jouez, hein, en jouant avec les mots, vous jouez avec cette folie d'une peur qui se met à proliférer et d'une incertitude qui se généralise. De quoi faut-il avoir peur?
Mais c'est sûr que la société a peur de se perdre dans la religion d'un côté, la société française ou européenne, et de l'autre côté, les sociétés d'État musulmanes assez fortes, on va dire, ont peur du modèle européen qui représente comme étant dépravé. Donc il y a de la peur de tous les côtés. C'est ça qui est assez,
assez peur
étonnant,
en miroir,
on fonctionne ensemble.
Oui, oui, oui. Peur d'un côté d'entrer ou de réentrer dans la religion, c'est-à-dire de se réexposer à une religion qui serait dominatrice sur la société, et puis peur de l'autre côté d'en sortir et d'aller vers l'abandon du religieux, même si on souffre de ce maintien du religieux à travers des formes traditionnelles qui sont crispées. Donc des deux côtés, une incertitude qui est liée, et je crois que c'est le cœur de vos textes, à ce que les hommes font dire à Dieu et à la place que les hommes veulent donner à la religion dans leur vie.
Le sacré et la sécularisation des deux côtés sont au service du pouvoir du politique. Je pense que à cet endroit-là, c'est précisément la volonté pour moi de rappeler que la religion est un instrument de maintien du pouvoir en place d'un côté. Et de l'autre, le discours sur la peur de l'autre, sur le choc des civilisations, est aussi une façon de se maintenir en place. Donc juste ne pas être dupe de ça. Donc, évidemment, dans ce texte-là, l'exagération du rat, je l'espère, donne à entendre qu'on est dans quelque chose, dans une fiction qui est produite par une littérature de la peur.
Et alors, ce qui est intéressant aussi au début du passage, c'est que il y a Cendrillon. Hein, alors, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu qui est Cendrillon. Peut-être que c'est vous, Cendrillon. Et Cendrillon, en tout cas, c'est cette conscience qui dit, je vous cite, « c'est entre Dieu et moi ». C'est-à-dire que justement, elle revendique la possibilité d'une vie spirituelle, d'un dialogue avec Dieu, ou avec en tout cas une transcendance, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas capturée par l'intercession de tous ceux qui veulent se mettre entre Dieu et elle. Hein. Vous les citez, tous ceux qui veulent jouer les intermédiaires, les prêtres, le père, la police, les soldats, les commerçants, les imams, les rabbins, les journalistes, les candidats à la présidence de la République, blablabla, etc. Et puis les rats, hein. On arrivera ensuite aux rats. Mais donc, qu'est-ce qu'elle dit en réalité, Cendrillon, quand elle dit « c'est entre Dieu et moi » Qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer là ?
Cendrillon, c'est la figure de la femme qui rêve. Elle rêve d'un ailleurs, elle rêve d'une vie qui lui permette de s'épanouir pleinement. Donc c'est une figure que j'utilise pour des tas de raisons dans ce texte, qui est parlante. Et en tout cas, sa possibilité d'être un sujet autonome est complètement confisquée, à la fois par le pouvoir et par l'homme, évidemment. Et elle-même ne peut se construire en tant que sujet, en tant que personne autonome, parce que d'autres prennent le pouvoir et lui indiquent comment, par quel biais, par quel moyen, accéder à un rêve qui est le sien.
C'est-à-dire que pour une femme, il y a partout des prêtres, et pas seulement dans la religion. C'est-à-dire toujours des intercesseurs ou des intermédiaires qui veulent prendre sa vie en main à sa place, hein, et décider à sa place. Il y a une dimension féministe dans votre texte, dans votre écriture, et une revendication.
clairement. Oui, oui, il y a une dimension clairement féministe.
Mais déjà, là, dans cette Cendrillon, hein, qui on voit promener.
Comment ça poindre effectivement une prise de conscience dans ce personnage qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas autonome, qu'il y a entre elle et elle un monde, et d'abord un monde d'hommes, un ordre qui n'a absolument pas l'intention de laisser Cendrillon se confronter à son rêve et de vivre la réalité, parce que c'est le chemin que doit faire Cendrillon, qu'elle ne fait jamais dans le conte populaire, en tout cas ça lui est confisqué.
On est donc avec le luth de Kamel El-Mimouni.
Ouille. Dans la télévision, Cendrillon rêve de porter le niqab. Elle attend son heure heureuse, ce jour où un prince lui apportera un drap long sans paillettes, sans fil d'or. Une cape noire pour se confondre à la nuit et s'adonner à Dieu qui n'a rien demandé de tel. Son mari ici, pourquoi ce zèle qui tire les ficelles? Ouille, les hommes parlent haut et fort, c'est ainsi qu'on les écoute par la force. Ils ont trouvé mieux qu'un haut-parleur pour imposer leur voix, le nom d'Allah. Ouille. Tout repose sur une paire de houilles. Elles ont été gonflées de promesses intenables, de rêves de petits garçons valeureux, d'histoires de prophètes téméraires, de chevaliers courageux, de martyrs intrépides. Ouille. Dans les houilles, il y a des histoires de monstres à mettre KO, des guerres à mener, des paix à rétablir, des méchants à tuer. Et les houilles se retrouvent au chômage à fumer des pétards devant la télé, à regarder Marilyn Le Pen faire son numéro de houillette. Et les houilles se dégonflent et les houilles ne savent plus quoi faire et les houilles n'ont trouvé qu'un passe-temps pour se sentir utile, faire le service d'ordre d'Allah. Parmi les houilles, il y a même les houillettes, dévouées à servir la cause virile. Elles ne voient même pas qu'elles maintiennent un monde de poils en place. Je vous le dis, c'est une histoire de houilles. L'origine du mal, c'est que l'homme ne sait pas son origine. La seule certitude de l'homme, c'est qu'il sort des entrailles d'une femme. Alors, ça rassure l'homme de tenir le monde façon ouille.
De ce texte, on a envie de dire ouille. Ouille, ouille, ouille. Ouille, ouille, pourquoi? Parce que vous n'y allez pas de main morte, hein, mine de rien. Vous dites, les hommes parlent haut et fort, c'est ainsi qu'on les écoute par force. Ils ont mieux trouvé qu'un haut-parleur pour imposer leur voix, le nom d'Allah. Et ils passent leur temps ensuite, dites-vous plus loin, à faire le service d'ordre d'Allah. Vous n'y allez pas de main morte. Là, il y a vraiment une attaque en règle, hein, d'une instrumentalisation de la religion au profit de l'ordre viril et de l'ordre masculin.
Évidemment, dans la religion, c'est aussi un endroit qui est très clairement au service de l'ordre viril, patriarcal, j'ai envie de dire, et qui n'est pas forcément perçu comme tel de prime abord, parce que, pour des tas de raisons historiques, mais c'est vrai que la parole qui fait le passage, c'est une parole d'homme.
Et une parole d'homme, dites-vous aussi dans le texte, qui peut compter sur la complicité, au moins objective, de houillettes, hein, qui se mettent au service de la cause virile. Vous dites, parmi les houilles, il y a même les houillettes dévouées à servir la cause virile. Elles ne voient même pas qu'elles maintiennent un monde de poils en place.
C'est rigolo, mais
n'empêche que la charge critique est vraiment importante. Hein.
C'est un texte ironique, évidemment, mais à la fois grave, dans le sens où il n'est pas tendre non plus avec la femme qui participe clairement à la répétition du schéma qui a aussi intégré la domination masculine comme norme et qui la répète par l'éducation aux enfants, donc sans le percevoir ou sans le voir. Et, Voilà, donc évidemment, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Il est grave, mais j'ai aussi envie de dire qu'il est libérateur pour les jeunes garçons, pour les hommes. Évidemment, libérateur de ce fantasme qu'ils ont d'eux-mêmes de servir, d'être le super-héros, d'être le surhomme. Non pas au sens de Nietzsche, mais plutôt le super-héros, celui qui vient... Il est aussi libérateur parce que tout est à repenser dans la société et je...
Et dans
je
le suis... rapport religieux, là, qui est directement en cause dans ce que vous dites.
C'est-à-dire je ne suis pas sûre que c'est au rapport aux religions. En tout cas, c'est un endroit à l'intérieur duquel ils peuvent exprimer quelque chose d'un manque à être qu'ils n'ont pas dans la société, avoir une place, diriger une entreprise.
Et à la place de ça, endroits, on se met donc au service d'Allah, dites-vous. Hein, justement, pour compenser cette absence ou cette impossibilité, ou voire cette incapacité eh bien, à construire sa vie d'une autre façon. On perpétue la religion comme une instance de domination au profit du masculin et au détriment du féminin.
C'est dans les cas précis de radicalisme, de lecture littéraliste, pas dans les autres cas. Je pourrais pas me permettre de parler à la place d'autres personnes, mais en tout cas, le regard que je porte ici, c'est la figure de Cendrillon, par exemple. C'est clairement... dans la télévision, c'est clairement une mise en abîme d'elle-même.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « dans la télévision, Cendrillon rêve de porter le niqab » ?
Cendrillon n'a pas changé, elle a toujours envie d'une belle robe. voilà. C'est toujours cette belle robe qu'elle recherche. Il n'y a pas vraiment de différence entre ma Cendrillon et Cendrillon de Perrault. Il y a toujours un homme derrière qui attend qu'une femme se fasse belle. Donc, grosso modo, ces choses-là n'ont pas changé. Ouais. On peut dire aussi que cette Cendrillon dans cette écriture et la Cendrillon du conte populaire ont un point commun, c'est qu'elle n'existe pas. Ce sont des fictions, ce sont des fantasmes, c'est une fiction très contemporaine. Il n'empêche qu'il y a eu des tas de reportages montrant qu'un certain nombre de femmes, qu'on avait l'impression d'être un nombre incroyable, avaient envie d'épouser pleinement les codes du fondamentalisme religieux. Je pense qu'il faut être très vigilant. Et en tout cas, dans le cas de ce texte, il y a une question qui est posée, c'est comment se fait-il qu'une femme, une jeune fille émancipée, épouse les codes de la misogynie de l'islam radical ?
Donc ici, il y a cette complicité qu'on évoquait, c'est-à-dire que cette Cendrillon qui rêve de porter le niqab, eh bien, comme le disait déjà Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, c'est cette femme qui ne vit qu'à travers un fantasme qui est instrumentalisé par le regard masculin. Et par un certain regard masculin, en plus, pas n'importe lequel, mais le plus normatif, et vous l'avez dit, le plus fondamentaliste. Et puis vous dites, parmi tous ces « oui », c'est-à-dire parmi tous ces hommes qui se servent de la religion pour assouvir leurs fantasmes, pour tous ces hommes, il y a une incapacité. Vous le dites à la fin du texte, cette incapacité, c'est à comprendre l'origine du mal. Et l'origine du mal, dites-vous, c'est pour certains hommes, l'impossibilité d'accepter qu'il soit sorti des entrailles d'une femme. En quel sens est-ce que c'est difficile pour un homme d'accepter de sortir des entrailles d'une femme ?
Il faudrait interroger un homme. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il y a une histoire commune, un combat pour les femmes qui a été mené, qui doit continuer à être mené et qui existe depuis des milliers d'années. Je pense que c'est important, très très important, de ne pas raciser, de ne pas essentialiser, de ne pas ethniciser à un certain type d'homme. C'est un combat qui doit être plus large. On a un combat commun à mener en tant que femme et qu'il faut absolument poursuivre. La raison pour laquelle, je ne sais pas. Il me semblait que, quelque part, la volonté de contrôle de la femme m'interpelle. L'obsession du corps de la femme, à certains endroits, m'amène à penser qu'il y a quelque chose à voir avec l'origine de l'homme ou son incapacité à peut-être à procréer. Je ne sais pas. Je vais être très humble.
Moi aussi. Ça va me changer un peu d'humilité. Samira El Ayachi, je rappelle, donc vous êtes écrivain ou écrivaine. J'ai sous les yeux votre dernier roman qui a pour titre 40 jours après ma mort. C'est aux éditions de l'Aube. Je vous propose maintenant d'écouter le dernier extrait déjà de cette émission. Tout de suite, ensemble.
J'ose pas vous demander. J'aurais besoin de sentir qu'on n'est qu'un. Qui veut me donner la main? Je me sens coupée de mon bras, coupée de ta jambe, coupée de notre odeur, coupée de ta voix. Je me sens coupée du monde par les objets du supermarché. Je me sens séparée de ton corps par l'écran de télé, dissociée de ta bouche par la voix des hommes. Religion, religaré, relié. J'ose pas vous demander. Ce moment où on a peur d'être ridicule, d'être dérangé dans son espace intime, tu le sens? C'est ça qu'il va falloir traverser. C'est à ça qu'il faudra résister, et on est dans le théâtre, c'est-à-dire dans le monde. Ici, c'est la fabrique des mondes à venir. Si ça marche au théâtre, ça marchera partout. Et j'aimerais bien avoir le courage de dire que j'ai besoin de ta main. Comme besoin de réparer les corps déchirés. Faire corps, faire société. Et là, c'est historique. Dieu va reprendre l'ascenseur et laisser les hommes et les femmes se débrouiller entre eux. Liberté, chérie, tombée dans l'état d'urgence. Égalité rêvée entre les dents des banquiers et les crocs de la finance. Fraternité manquée dans les rendez-vous de l'histoire. Fraternité, tu nous sauveras. Et après, il nous faudra du rêve. Et après, il nous faudra de l'amour. Et après, il nous faudra du croire ensemble. Il nous faudra ouvrir des livres, rentrer tout entier dans les textes, étudier, déconstruire, s'intéresser, accompagner. Et après, il nous faudra croiser nos imaginaires et construire confiance. Rendre la peur au tiroir de la télévision et aux vendeurs d'Apocalypse. Ouvrir les livres de Omar Khayyam, Averroès, Mohamed Harkoun, Walada, Baudelaire. C'est une question française. Et il va nous falloir affronter nos monstres ensemble.
Chanter à la fin Tala al-Badou al-Aïna, donc une ode prophète très classique, très connue, très populaire. Donc Samira El-Ayachi, la question française. Allez hop, je fonce directement sur la question française dont vous nous parlez dans cet extrait. Affronter nos monstres ensemble, dites-vous, à partir d'un état au départ que vous décrivez, qui est le nôtre probablement. On est coupé, on est dissocié, on est divisé, hein. Et puis, on est non seulement découpé, dissocié, divisé, mais dites-vous, Dieu a repris l'ascenseur. Et il a dit aux hommes, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Et voilà donc à l'arrivée la question française.
C'est une adresse, ce texte.
Oui.
Une adresse à l'autre. Uh-huh. Et quelle responsabilité prenons-nous, quelle part prenons-nous dans l'histoire commune que nous sommes en train de construire? C'est un texte qui parle de la solitude. De la solitude de chacun. Je parle des objets du supermarché, parce qu'évidemment, oui, il y a aussi le secteur marchand, qui a fait beaucoup de dégâts aussi, et qui peut-être démultiplie le sentiment de solitude. Il y a tous les événements tragiques qui se sont déroulés, et l'impression d'être complètement déchiré, d'être divisé, d'être découpé en morceaux aussi. Ce sont des images qui nous accompagnent. Dans cet imaginaire collectif qu'on partage, un sentiment assez de désarroi absolu, total, mais une véritable solitude aussi dans la pensée, D'un côté, quand je dis qu'il va falloir affronter nos monstres ensemble, il y en a plusieurs. Il y a un véritable déni dont j'ai parlé précédemment de la société française, c'est-à-dire se replonger dans l'histoire, dans la mémoire, aller regarder un petit peu comment on en est arrivé là. Je pense que, encore une fois, que la société française est en train de se poser les bonnes questions. De plus en plus, j'entends cette forme de désarroi en disant on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne sait pas. Je pense que c'est une des belles choses qui est en train de nous arriver, c'est de dire je ne sais pas ce qui est en train de se passer.
Oui, vous dites, donc on est dans ce moment à la fois difficile et porteur d'espérance, parce qu'on va être obligé de réagir, ce moment de solitude collective finalement. Ça, c'est le paradoxe d'une solitude collective dans laquelle on est, ou peut-être à ce moment-là, ce qu'il va falloir apprendre à partager à nouveau, si j'ai bien compris, vous le citez un moment dans le texte, c'est l'intime, c'est-à-dire mettre entre nous quelque chose d'intime. Qu'est-ce que ça, vous en faites de cette notion d'intime ?
On appelle ça le grand oublié, la fraternité, je ne sais pas comment appeler ça. C'est quelque chose de très particulier parce que ça ne se décrète pas. L'égalité, la liberté, l'État est garant, les institutions sont garantes de ça, mais la fraternité, c'est pas quelque chose qui se force, c'est quelque chose qui est construit par l'histoire, par la rencontre, et j'ai l'impression par construire une histoire commune. Et c'est là que je parle de responsabilité, parce qu'on a une formidable institution, qui est l'école, qui est la culture. C'est pas anodin si Kamal El-Mimouni dit des textes, et que ces textes sont des textes issus d'un patrimoine arabo-musulman. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est aussi capable de découvrir l'imaginaire qu'on a à partager, tout simplement, toute cette production littéraire, artistique, culturelle, culinaire déjà, le langage. Il y a un travail monstrueux qui est en face de nous, qui nous attend.
Alors un travail de liaison, de reliaison, d'articulation entre les cultures, entre les héritages. C'est ce que vous faites très bien dans vos textes, et je vous remercie donc d'être venu aujourd'hui pour en témoigner à travers votre voix, et puis les explications ou les élucidations qu'on a tentées au sujet de votre écriture et de votre poésie, mais la poésie parle mieux d'elle-même que quand on veut lui faire dire quelque chose. Vos textes sont magnifiques. Merci beaucoup, Samira El Ayachi.
Merci de votre invitation.
C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Aujourd'hui, j'étais en compagnie de Samira El Ayachi, dont on a écouté les textes et avec laquelle j'ai dialogué. Je vous rappelle son dernier livre aux éditions de l'Aube en 2013, 40 jours après ma mort. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les références des livres et des musiques de l'émission sur le site franceculture.fr. Pour la réalisation de cette émission, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, qui l'ont réalisé avec moi, Dominique Compétissa, qui est attaché de production de l'émission, à la prise de son Bruno Mourlan et à la réalisation Franck Lilin. Dans quelques instants, c'est l'heure de Rue des Écoles avec Louis Touré. Thank you.